À Pékin, en 1974, je ne lisais ni Wittgenstein, ni Baudelaire, ni le Renmin Ribao. Je lisais peu. J'avais beaucoup trop à faire. La lecture, c'était bon pour ces désœuvrés qu'étaient les adultes. Il fallait bien qu'ils s'occupent. Moi, j'avais des fonctions importantes. J'avais un cheval qui prenait les trois quarts de mon temps. J'avais des foules à éblouir. J'avais une image de marque à préserver. J'avais une légende à construire. Et puis surtout, il y avait la guerre. La guerre épique et terrible du ghetto de Sanlitun. Prenez une ribambelle d'enfants de toutes les nationalités. Enfermez-les ensemble dans un espace exigu et bétonné. Laissez-les libres et sans surveillance. Ceux qui supposent que ces gosses se donneront la main avec amitié sont de grands naïfs. Notre arrivée coïncida avec une conférence au sommet où il fut décrété que la fin de la Deuxième Guerre mondiale avait été bâclée. Tout était à refaire, étant entendu que rien n'avait changé. Les méchants n'avaient jamais cessé d'être les Allemands, et les Allemands n'étaient pas ce qui manquait à Sanlitun. En outre, la Dernière Guerre mondiale avait manqué d'envergure. Cette fois-ci, l'armée des Alliés compterait toutes les nationalités possibles, y compris des Chiliens et des Camerounais. Mais ni Américains, ni Anglais. Racisme ? Non. Géographie. La guerre était circonscrite au ghetto de Sanlitun. Or, les Anglais résidaient à l'ancien ghetto qui s'appelait Waijaitalu. Et les Américains vivaient tous ensemble, dans leur compound particulier, autour de leur ambassadeur, un certain George Bush. L'absence de ces deux nations ne nous dérangea pas le moins du monde. On pouvait se passer des Américains et des Anglais. En revanche, on ne pouvait pas se passer des Allemands. La guerre commença en 1972. C'est cette année-là que j'ai compris une vérité immense. Sur Terre, personne n'est indispensable, sauf l'ennemi. Sans ennemi, l'être humain est une pauvre chose. Sa vie est une épreuve, un accablement de néant et d'ennui. L'ennemi, c'est le Messie. Sa simple existence suffit à dynamiser l'être humain. Grâce à l'ennemi, ce sinistre accident qu'est la vie devient une épopée. Ainsi, le Christ avait raison de dire « Aimez vos ennemis ». Mais il en tirait des corollaires aberrants. Il fallait se réconcilier avec son ennemi, tendre la joue gauche, etc. C'est malin. Si l'on se réconcilie avec son ennemi, il cesse d'être son ennemi. Et s'il n'y a plus d'ennemi, il faut s'en trouver un autre. Tout est à recommencer. Comme quoi, ça n'avance à rien. Donc, il faut aimer son ennemi et ne pas le lui dire. Il ne faut en aucun cas envisager une réconciliation. L'armistice est un luxe que l'être humain ne peut pas se permettre. La preuve, c'est que les périodes de paix aboutissent toujours à de nouvelles guerres. Tandis que les guerres se solde généralement par des périodes de paix. Comme quoi, la paix est nuisible à l'homme, alors que la guerre lui est bénéfique. Il faut donc accepter les quelques nuisances de la guerre avec philosophie. Aucun quotidien, aucune agence de presse, aucune historiographie n'a jamais mentionné la guerre mondiale du ghetto de Sanlitun, qui dura de 1972 à 1975. C'est ainsi que, dès mon plus jeune âge, j'ai su à quoi m'en tenir quant à la censure et à la désinformation. Car enfin, peut-on trouver dérisoire un conflit de 3 années, auquel prirent part des dizaines de nations et au cours duquel des atrocités aussi épouvantables furent perpétrées? Prétexte à ce silence des médias, la moyenne d'âge des combattants avoisinait les 10 ans. Les enfants seraient-ils donc étrangers à l'histoire? Suite à la conférence internationale de 1972, un mouchard fit part aux adultes de la guerre qui allait commencer. Les parents comprirent que la tension belliqueuse était trop forte et qu'ils ne pourraient empêcher le conflit imminent. Cependant, une nouvelle guerre contre les Allemands eut eu des répercussions insoutenables sur les relations avec les teutons adultes. À Pékin, les pays non communistes devaient se serrer les coudes. Une délégation parentale vint donc imposer ses conditions. Oui à la guerre mondiale, puisqu'elle est inévitable. mais aucun Allemand de l'Ouest ne pourra être tenu pour ennemi. Cette clause ne nous dérangea pas le moins du monde. Les Allemands de l'Est étaient bien assez nombreux pour nous servir d'adversaires. Or, les adultes voulaient plus. Ils exigeaient que les Allemands de l'Ouest fussent incorporés dans l'armée des Alliés. Nous ne pûmes nous y résoudre. Nous acceptions de ne pas les démolir, mais lutter à leur côté nous eût paru contre nature. D'ailleurs, les enfants d'Allemagne de l'Ouest n'y consentirent pas davantage. Faute d'ennemis, les malheureux en furent réduits à la neutralité. Ils s'ennuyèrent à périr. À l'exception de quelques petits traîtres qui passèrent à l'Est, singulières défections qui n'ont jamais été mentionnées. Ainsi, dans l'esprit des grands, la situation était régularisée, la guerre des enfants était une guerre contre le communisme. J'atteste qu'aux yeux des enfants, ce ne fut jamais le cas. Pour jouer le rôle des méchants, seuls les Allemands nous enthousiasmaient. La preuve en est que nous n'avons jamais combattu les Albanais ou autres Bulgares de Salnitoun. Ces quantités négligeables restèrent hors jeu. Pour les Russes, la question ne se posa pas. Ils avaient aussi leur compound particulier. Les autres pays de l'Est résidaient à Waijaitalou, à l'exception des Yougoslaves que nous n'avions aucune raison de tenir pour ennemis, et des Roumains que les adultes nous contraignaient à enrôler, tant il était de bon ton à cette époque d'avoir des amis roumains. Ce furent les seules incursions des parents dans notre déclaration de guerre. Je tiens à souligner combien elles nous parurent artificielles. En 1974, j'étais la Benjamine des Alliés avec mes 7 ans. Le doyen, qui en avait 13, me faisait l'effet d'un vieillard. L'essentiel de nos effectifs était français, mais le continent le mieux représenté était l'Afrique. Camerounais, Maliens, Zaïrois, Marocains, Algériens, etc. emplissaient nos bataillons. Il y avait aussi les Chiliens, les Italiens, et ces fameux Roumains, que nous ne pouvions pas sentir, parce qu'ils nous avaient été imposés et qu'ils ressemblaient à une délégation officielle. Les Belges étaient limités à 3. Mon frère André, ma sœur Juliette et moi. Il n'y avait pas d'autres enfants de notre nationalité. En 1975, arrivèrent 2 exquises petites flamandes, mais elles étaient désespérément pacifistes. Nous ne pûmes rien en tirer. Au sein de l'armée se constitua dès 1972 un noyau dur de 3 pays indéfectibles tant en amitié qu'au combat. Les Français, les Belges et les Camerounais. Ces derniers portaient des prénoms ahurissants, avaient de grosses voix et riaient tout le temps. Ils étaient adorés. Les Français nous paraissaient pittoresques. Ils nous demandaient avec une réelle candeur de parler en belge, ce qui nous faisait rigoler, et ils mentionnaient souvent un inconnu dont le nom, Pompidou, déclenchait mon hilarité. Les Italiens étaient le meilleur ou le pire. Il comptait autant de poltrons que de braves. Et encore, l'héroïsme de ces braves obéissait à leur saute d'humeur. Les plus téméraires pouvaient se révéler les plus lâches dès le lendemain de leur exploit. Parmi eux, il y avait une mi-italienne, mi-égyptienne du nom de Gian. À 12 ans, elle mesurait 1,70 m et pesait 65 kilos. Compter ce monstre parmi nos rangs était un atout. À elle seule, elle pouvait faire décamper une patrouille allemande et c'était un spectacle que de voir ce corps distribuer les coups. Mais sa terrifiante croissance lui avait déréglé le caractère. Les jours où Gian grandissait, elle était inutilisable et infréquentable. Les Aérois se battaient à merveille. Le problème était qu'ils se battaient autant entre eux que contre l'ennemi. Et si nous intervenions dans leurs querelles intestines, ils se battaient contre nous aussi. La guerre prit vite des proportions sérieuses et il apparut que notre armée ne pouvait se passer d'un hôpital. Au sein du ghetto, près de la briqueterie, nous trouvâmes une gigantesque caisse en bois qui avait servi à un déménagement. 10 d'entre nous pouvaient s'y tenir debout. La caisse de déménagement fut élue hôpital militaire à l'unanimité. Il nous manquait encore le personnel soignant. Ma sœur Juliette, âgée de 10 ans, fut décrétée trop jolie et trop délicate pour combattre au front. Elle fut nommée infirmière, médecin, chirurgien, psychiatre, intendante, et s'en tira à merveille. Elle vola à des diplomates suisses réputés salubres de la gaze stérile, du mercurochrome, des aspirines et des vitamines C. Elle attribue à ces dernières des vertus souveraines contre la lâcheté. Lors d'une expédition de grande envergure, notre armée parvint à investir le garage d'une famille d'Allemands de l'Est. Les garages constituaient des positions stratégiques considérables, car c'était là que les adultes enfermaient leurs provisions. Et Dieu sait si ces stocks étaient précieux à Pékin, où les marchés ne vendaient guère que du porc et du chou. Dans ce garage teuton, nous débusquâmes une caisse remplie de sachets de soupe déshydratée. Elle fut confisquée et entreposée à l'hôpital. Encore fallait-il lui trouver une utilisation. Un symposium se pencha sur la question et découvrit que la soupe en sachet était bien meilleure à l'état de poudre. Les généraux se réunirent en secret avec l'infirmière médecin pour décréter que cette poudre serait notre placebo guerrier. On lui attribuerait une valeur de panacée tant pour les plaies physiques que pour les tourments de l'âme. Celui qui y incorporerait de l'eau passerait au tribunal militaire. Le placebo remporta un tel succès que l'hôpital ne désemplit pas. Les simulateurs étaient excusables. Juliette avait fait du dispensaire une antichambre de l'Éden. Elle couchait les malades et les blessés sur des matelas du Renmin Ribao. Elle les questionnait avec douceur et sérieux quant à leurs souffrances. Elle leur chantait des berceuses et les éventait en versant dans leur bouche ouverte le contenu d'un sachet de soupe déshydratée. Les jardins d'Allah ne devaient pas être un séjour plus agréable. Les généraux se doutaient de la véritable nature de ces épidémies, mais ils ne désapprouvèrent pas ce stratagème qui, somme toute, leur parut bon pour le moral des troupes et rapporta à l'armée nombre d'enrôlements spontanés. Certes, les nouvelles recrues voulaient devenir soldats dans l'espoir d'être blessés. Les chefs ne désespérèrent pas pour autant de faire d'eux de valeureux guerriers. Il me fallut de l'obstination pour être admise parmi les alliés. On me trouvait trop petite. Il y avait des enfants de mon âge, voire moins âgés, dans le ghetto. Mais cela n'avait pas encore d'ambition militaire. Je fis valoir mes mérites. Courage, ténacité, loyauté sans bornes et surtout, rapidité à cheval. Cette dernière vertu retint l'attention. Les généraux débattirent longuement entre eux. Ils finirent par me convoquer. J'arrivai en tremblant. On m'annonça que pour ma petite taille et ma vitesse, j'étais nommée éclaireur.
En plus, comme tu es un bébé, l'ennemi ne se méfiera pas.
La mesquinerie de cette allégation ne put entacher le bonheur que me valut la nomination. Éclaireur. Je ne pouvais pas concevoir plus beau, plus grand, plus digne de moi. Je pouvais attraper ce mot-là d'un bout à l'autre dans tous les sens, l'enfourcher comme un mustang, m'y suspendre comme un trapèze. Il était toujours aussi beau. L'éclaireur était celui dont dépendait la survie de l'armée. Au péril de son existence, il avançait seul en territoire inconnu pour repérer les dangers. Il pouvait, au moindre caprice du hasard, marcher sur une mine et éclater en mille morceaux. Et son corps, désormais puzzle d'héroïsme, retomberait lentement sur le sol en décrivant dans l'air un champignon atomique de confettis charnel. Et les siens, restés au camp, voyant des fragments organiques monter vers le ciel, s'écrieraient « C'est l'éclaireur !» Et après s'être élevés en proportion de leur importance historique, les mille morceaux se figeraient un instant en cet éther, puis atterriraient avec tant de grâce que même l'ennemi pleurerait une si noble oblation. Je rêvais de mourir de cette façon. Ce feu d'artifice rendrait ma légende éternelle. La mission d'éclaireur est d'éclairer, dans les multiples acceptions du terme. Et éclairer, ça m'irait comme un gant. Je serais un flambeau humain. Mais capable de se contredire comme les protées de génie, l'éclaireur pouvait aussi devenir invisible, inaudible. La silhouette furtive se glissait parmi les rangs ennemis sans être remarquée de personne. L'espion picaresque se déguise. L'éclaireur, épique, ne condescend pas à ses travestissements. Tapis dans l'ombre, il risque sa vie avec hauteur. Et quand, au terme d'une reconnaissance suicidaire, l'éclaireur rentre au camp, son armée, bouleversée de gratitude admirative, accueille ses informations sans prix comme une manne céleste. Dès que l'éclaireur ouvre la bouche pour parler, les généraux se suspendent à ses lèvres. Personne ne le félicite, mais on lui adresse des regards droits et brillants qui en disent bien plus long. De ma vie, jamais nomination ne me combla autant que celle-là. Jamais titre ne me parut convenir aussi profondément à la valeur que je m'attribuais. Plus tard, je me contenterai d'être prix Nobel de médecine ou martyr. J'accepterai sans trop de dépit ces destinées un peu vulgaires, en me rappelant que la plus noble partie de mon existence était derrière moi et qu'elle me demeurait acquise pour l'éternité. Je pourrais éblouir les gens jusqu'à ma mort en disant cette simple phrase. À Pékin, pendant la guerre, j'étais éclaireur.